Je vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
À Je vote pour la science cette semaine, voulant parler des scientifiques devenus militants, environnement, énergie, climat, de nombreuses causes nous interpellent comme citoyens. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. De la soupe sur un tableau de Van Gogh, de la purée sur une toile de Monet, de la cire sur une statue du roi Charles, les actions directes des militants écologiques sont très médiatisées. Cela interpelle même des scientifiques. Le mouvement La Révolte Scientifique, Scientific Rebellion, appelle également à des actions de désobéissance civile, comme on l'a vu ce mois-ci en Allemagne, bloquer le trafic automobile ou se coller même à la vitrine d'une agence de la Deutsche Bank lors du sommet mondial de la santé qui se tenait à Berlin. L'action directe serait un recours pour alerter la société civile à l'importance de l'urgence climatique. Et certains scientifiques s'engagent dans des gestes d'éclat plutôt que de simplement prendre la parole dans les médias. Comment les scientifiques voient-ils ou voient-elles cette forme de militantisme ? Nous en parlons tout de suite. Restez là. Certains chercheurs décident alors d'embrasser une cause et de se mobiliser, et même parfois de passer à l'action. Pour mieux comprendre ce qui les motive, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Laurence Brière, qui est professeure au département de didactique, chercheur au Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté, le CENTRER. Vous vous intéressez aux enjeux épistémiques, relationnels, éthiques et politiques soulevés par la diversité des rapports que les personnes et groupes sociaux entretiennent avec leur environnement. C'est bien ça ? Bonjour Laurence.
Oui, bonjour Isabelle.
Nous sommes aussi en compagnie de Marie Saint-Arnaud. Vous êtes ethnobiologiste et professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Vos travaux de recherche portent sur la foresterie en contexte autochtone et l'éducation relative au changement climatique. Vous êtes membre aussi du comité de coordination du collectif scientifique sur les enjeux énergétiques au Québec. C'est bien ça? Bonjour.
Oui, bonjour Isabelle. C'est bien ça. Ça me fait plaisir d'être là.
Donc, les scientifiques nous ont plus habitués à participer à des manifestations, à répondre aux questions des journalistes sur les plateaux de télévision. Aujourd'hui, certains n'hésitent plus à poser des actions de désobéissance civile. On l'a vu lors du sommet mondial sur la santé à Berlin, en Allemagne, où le mouvement Scientist Rebellion a bloqué les entrées de l'hôtel Berlin Central District où se tenait le sommet. Est-ce que c'est rare qu'un chercheur alerté par une cause pose des actions de désobéissance civile afin de faire bouger les choses, professeur Saint-Arnaud?
Je constate que c'est de plus en plus commun ou présent dans l'espace médiatique. C'est peut-être pas la manière courante ou habituelle des scientifiques d'intervenir dans l'espace public, mais je pense que face à l'urgence climatique et l'effondrement de la biodiversité, donc des crises environnementales auxquelles nous sommes confrontés, de plus en plus de scientifiques trouvent que la voix de la science n'est pas assez entendue et qu'il faut la transmettre d'une manière qui est devenue plus plus militante, si on veut, entre guillemets, parce que je trouve que l'idée de militantisme telle que vous l'avez annoncé en introduction ne convient peut-être plus, dans le sens où l'engagement des scientifiques et relève plutôt de l'ordre du réalisme, à mon avis, que du militantisme aujourd'hui.
Oui. Professeur Brière, est-ce que vous êtes d'accord? Et est-ce que, selon vous, il faut condamner ces actions de désobéissance civile ou je ne sais pas?
Oui. Eh bien, je suis assez d'accord avec les propos de Marie. Et moi-même, je fais de la recherche engagée. Je me suis impliquée auprès notamment du Front commun pour la transition énergétique. Maintenant, la désobéissance civile, je pense que c'est intéressant de voir un peu, mais qu'est-ce que c'est, hein? C'est une opposition active, non violente, hein? En occupant illégalement des lieux, en bloquant des accès, en faisant des actions d'éclat, par exemple, lors d'événements. Donc, si les scientifiques en sont rendus là, c'est parce que ils voient aussi la portée de ce type d'action-là. C'est reconnu. Bon, la désobéissance civile à travers l'histoire, ça a été un moteur de changement social certain. Là, l'histoire le démontre. Puis, ce que je trouve intéressant actuellement, c'est que ces activités-là, notamment de Scientist Rebellion, elles peuvent aussi apporter une contribution à une certaine forme de justice épistémique, parce que là, les scientifiques reconnaissent le savoir agir militant, les stratégies, les méthodes d'action. Ça fait que ça a cet intérêt-là aussi. Parce qu'on a aussi besoin, dans les débats sur des questions socio-écologiques, de faire reconnaître les différents types de savoirs. Et en tout cas, alors, je trouve que ça c'est un intérêt certain, mais c'est sûr que c'est un risque là, pour les scientifiques. Puis on pourrait en reparler, mais...
Mm-hmm. Oui, parlons-en justement. Est-ce que scientifiques peuvent prendre position de telle manière?
Est-ce qu'ils peuvent?
Est-ce qu'ils doivent?
Est-ce qu'ils doivent? Est-ce qu'ils peuvent? Ils le peuvent, c'est certain. Ils sont citoyens, citoyennes. Ils font partie de la communauté politique, là. Ils le peuvent. Mais maintenant, est-ce que c'est sûr, on sait qu'il peut y avoir des représailles sur le plan judiciaire. Être arrêté, avoir éventuellement même un casier, je sais pas, mais sur le plan institutionnel aussi, on peut penser qu'il pourrait avoir des formes de sanctions avec l'université d'attache. Il pourrait éventuellement aussi y avoir peut-être un impact dans l'évaluation par les pairs, là, que ce soit, tu sais, parce qu'on est toujours influencé, des fois qu'on le veuille ou non, hein, quand on fait ce type d'évaluation. Donc, ça fait partie des risques, je pense.
Oui, professeur Saturneau, doivent-ils entrer justement de telle manière dans des débats sociaux et les défendre au point de devenir militants et de poser des actions?
Militants réalistes. je pense que c'est une décision personnelle des chercheurs, des scientifiques de s'engager dans la désobéissance civile. Nous, au collectif scientifique sur les enjeux énergétiques, nous intervenons dans les canaux qu'on pourrait dire classiques de communication ou de consultation du public et des scientifiques. Notre groupe de chercheurs va par exemple participer à des audiences publiques sur des projets environnementaux ou des projets plutôt d'exploitation des ressources naturelles. On va écrire des lettres aux journaux. On va déposer des mémoires quand il y a des consultations publiques. Tout ça, ce sont des manières classiques des scientifiques de s'engager dans les débats publics qui ont qui présentent des risques pour l'environnement, mais il y a certains scientifiques qui vont choisir d'aller un peu plus loin, participer à des manifestations et ça peut aller jusqu'à la désobéissance civile. Mais je crois que les scientifiques quand ils participent à des occasions ou des actions de désobéissance civile le font en leur propre nom. Comme moi, par exemple, je suis membre aussi de Mères au front. Je suis une grand-mère au front avec Laure Varidel, Anaïs Barbeau-Lavalette et tout ce vaste réseau. Mais je le fais en mon nom personnel, comme plusieurs scientifiques comme Laure Varidel, par exemple, qui fait partie de Mère au front. Et c'est un regroupement qui est plus revendicateur, on pourrait dire, que le collectif scientifique dont je fais partie. Les scientifiques du collectif choisissent de s'exprimer d'une autre manière.
Oui. Rappelez-nous ce qui vous motive, justement, à adhérer et au collectif scientifique sur les enjeux énergétiques au Québec. Là. Qu'est-ce qui vous a poussé au début à adhérer à ça et puis à Mère au front?
je pense que c'est une question de valeur et en tant que scientifique aussi de compréhension des enjeux, de la gravité des enjeux environnementaux. Moi, j'ai toujours été engagée pour manifester mes inquiétudes face aux enjeux environnementaux. Quand j'étais étudiante, je participais à des manifestations contre le nucléaire. C'était la mode, ou enfin, c'était la menace à l'époque. Et aujourd'hui, ben, par exemple, j'ai personnellement été très impliquée pendant près de 2 ans dans la lutte contre le projet de GNL Québec qui voulait exporter du gaz méthane liquéfié à partir d'un port situé au Saguenay et faire circuler des méthaniers sur le fjord du Saguenay, qui est un joyau de notre patrimoine paysager au Québec, au Canada et même au monde. Alors, cette situation m'a semblé une telle aberration que je me suis impliquée de tout mon cœur et j'ai rassemblé de nombreux collègues scientifiques du collectif pour participer de plein pied aux consultations entourant aux audiences du Bureau des audiences publiques du Québec, entourant ce projet dévastateur pour le climat, pour notre environnement, et pour nos économies régionales, etc. Alors, souvent, on voit les scientifiques qui s'impliquent parce qu'ils sont touchés personnellement par une situation. Moi, personnellement, je passe une partie de mes étés à Tadoussac. Alors, c'est certain que j'aurais vu passer les méthaniers à tous les jours devant mes yeux et que je suis sensible aussi aux grands cétacés, les baleines, les belugas, qui sont des espèces en péril dans cette région. Alors, la question du cœur, de l'attachement au territoire que nous portons comme citoyens, comme individus et comme scientifiques motive notre engagement. Ouais. C'est certain, puis c'est pas une question de pas dans ma cour. On accuse souvent les militants d'adhérer ou de faire preuve du syndrome de pas dans ma cour. Je pense que ce n'est pas du tout l'enjeu. Puis la plupart du temps, on devrait être content que des citoyens s'expriment puis se manifestent parce qu'il y a un enjeu dans leur cour ou dans leur environnement proche. Nous sommes les gardiens du territoire dans notre propre cour, justement. Alors, si on peut éclairer les débats avec une dimension scientifique, et s'allier aux citoyens de nos régions, c'est fantastique.
Oui, professeur Brière, oui. Vous n'allez pas pouvoir ne pas être d'accord avec tout ce qui s'est dit, mais vous avez ouvert la porte sur quelque chose. Il y a aussi une question de justice épistémique et de l'importance de se mobiliser. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer plus en avant ce que c'est?
Oui, la justice épistémique, c'est l'idée d'une reconnaissance des différentes formes de savoir sur dans l'étude de questions vives, dont les questions socio-écologiques. Donc, c'est un enjeu important parce que, ces questions-là, elles sont complexes, puis on a besoin des points de vue de tous les différents acteurs sociaux. C'est dans l'intersubjectivité là qu'on arrive à mieux comprendre les situations. Alors, c'est dans cette perspective-là, moi, souvent, que je mène mes recherches, dans la perspective, en tout cas, dans la visée de contribuer à une justice épistémique à un dialogue des savoirs puis à une justice épistémique. Mais tout ça, cet engagement-là, qu'il soit en recherche, qu'il soit dans l'action collective comme chercheur, puis qui arrive finalement peut-être à une désobéissance civile, Marie le disait bien, ça part vraiment de qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur. Ça part d'un sentiment d'indignation. Puis là, je lisais dans le site de Scientist Rebellion une lettre ouverte de Mauricio Misquero, professeur ou en tout cas chercheur à l'Université de Rome en aérospatiale, puis qui dit « Moi, je vis de l'éco-anxiété, de l'éco-colère. » On parle beaucoup de l'éco-anxiété dans les médias, mais l'éco-colère, elle est là aussi. Puis c'est ça qui fait qu'on se mobilise. Et c'est intéressant parce que, tu sais, c'est important ça en recherche, surtout en sciences sociales, on parle de la théorie du point de vue situé, hein, le standpoint theory. Et parce qu'une personne, qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit d'un autre secteur, interprète toujours un phénomène d'une manière qui est socialement, politiquement, économiquement, culturellement et même historiquement située là. Et donc, c'est ça. Ça fait que c'est intéressant, d'une part, quand on fait de la recherche, d'être capable d'être transparent par rapport à cette posture-là, ce point de vue duquel on arrive, des valeurs qu'on porte comme chercheur. Et ensuite de ça, ben ça fait en sorte que, c'est ça, les personnes à qui on s'adresse, elles savent mieux d'où on arrive, elles peuvent mieux se faire une tête. Puis après ça, ben on peut décider, est-ce qu'on souhaite être engagé dans le débat public? Est-ce qu'on souhaite rester en retrait tout en ayant ces valeurs clarifiées là? Après ça, c'est différentes postures qu'on pourrait dire plus déontologiques là, qui peuvent s'exercer.
Oui, parce que c'est ça, c'est que le chercheur appartient souvent à un centre de recherche ou une université qui a certaines règles aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une peur de se retrouver condamné, ostracisé ou jugé pour un mouvement, professeur Saint-Arnaud, pour une implication, pour...
Peut-être ça dépend des institutions, de l'institution à laquelle on fait partie, parce que moi j'ai jamais senti une once de peur de m'impliquer d'une manière ou d'une autre. C'est certain que mon appartenance principale étant à l'UQAM, l'UQAM est quand même une université qui a été impliquée socialement, qui est une jeune université, qui a une tradition d'engagement social et aussi de faire de la recherche en croisement des savoirs, comme le fait Laurence. Moi, personnellement, parce que vous me posez la question, je ne me suis jamais sentie menacée ou inquiète. C'est sûr qu'on prend des précautions, comme avec le collectif scientifique. On s'assure que tout le monde est à l'aise avec le niveau d'engagement et le type d'engagement qu'on choisit de faire, et on prend des décisions collectives. Et on travaille souvent de pair, même avec les groupes environnementaux, mais on garde toujours une collaboration, je veux dire, de pair. Je veux dire, on peut échanger des informations. On a de nos étudiants qui font partie maintenant des groupes environnementaux comme scientifiques ou comme professionnels. Et donc, on collabore, mais c'est important d'avoir une voix distincte qui fait consensus au sein de nos collègues. Oui. Par contre, on a vu, j'ai un collègue, Patrick Provost, qui a été fondateur du regroupement des universitaires, qui regroupe 500 chercheurs, professeurs qui sont inquiets de la crise environnementale, climatique et de la biodiversité actuelle. Patrick Provost a été récemment suspendu de ses fonctions par l'Université Laval parce qu'il s'est prononcé publiquement, il a écrit un article sur la COVID, de sa position relative à la vaccination. Je pense qu'il doit évoluer dans un contexte qui est peut-être plus conservateur et plus coercitif et plus contrôlant. Alors que, je veux dire, à l'UQAM, on s'est pas gêné de prendre position contre le projet de GNL Québec. Même le syndicat des professeurs de l'UQAM a adopté une résolution pour allant dans ce sens, pour dénoncer ce projet mortifère, comme on dit. Et finalement, donc, vous voyez, il y a quand même des... c'est un peu du cas par cas, puis ça dépend jusqu'où on va et jusqu'où on est prêt à aller dans nos actions sociales puis nos engagements.
Oui, professeur Brière, l'institution à laquelle on appartient, peut-être peut nous pousser à ou nous freiner peut-être dans un mouvement plus radical, à pousser des actions. Qu'en pensez-vous?
Oui, ben sans doute. Et aussi, où on en est dans notre carrière. Est-ce qu'on est un doctorant? Est-ce qu'on est un postdoctorant, postdoctorante? Est-ce qu'on est un nouveau professeur en voie d'obtenir une permanence? Est-ce qu'on est un professeur titulaire? Je pense que tout ça, ça peut avoir un impact sur comment on va se positionner dans l'espace public au regard de nos travaux, puis au regard des enjeux qui nous tiennent à cœur. Alors voilà. Je pense que c'est une bonne partie de la réponse. Puis ensuite de ça, ben c'est ça. Tu sais, oui, il y a l'institution, mais c'est aussi dans une université, ça se passe beaucoup au cœur d'un département. Donc, tu sais, nous, on est évalués par nos collègues de travail. Donc, c'est sûr que, ben c'est ça. Il peut y avoir cette crainte-là éventuellement, ou au contraire, on peut sentir ce soutien-là des collègues de travail.
Oui, Laurence a raison. Excuse, Laurence, je ne vais pas te couper. Mais c'est vrai que d'une part, ça dépend où on est rendu dans notre carrière. Moi, je suis peut-être plus véhémente parce que je suis plus en fin de carrière. Mais aussi, tu as raison, c'est le soutien qu'on a de notre institution. Laurence et moi, on fait partie de l'Institut des sciences de l'environnement qui est résolument un regroupement de chercheurs multidisciplinaires appartenant à divers horizons et on est habitué de travailler ensemble sur des questions environnementales socialement vives et on est encouragé aussi à adopter cette approche de croisement des savoirs et également de prise de position dans l'espace public.
Oui, jusqu'à même peut-être travailler et faire de la recherche. Professeur Brière, j'aimerais que vous nous parliez donc d'un exemple de recherche collaborative engagée, votre projet Forge.
Oui, merci. Oui, c'est un projet qu'on a réalisé de 2018 à 2021, dont j'étais la chercheure responsable à travers le service aux collectivités de l'UQAM. On le disait tout à l'heure, l'UQAM est bien engagé au regard de la collectivité. Et donc, et puis c'est un projet qui a été fait en collaboration avec le Front commun pour la transition énergétique, le Réseau québécois des groupes écologistes et le Comité pour les droits humains en Amérique latine. Puis c'était un projet qui visait à soutenir la formation réciproque au cœur de la mobilisation pour une justice énergétique au Québec. Et c'était donc on travaillait cette recherche-là avec des gens du milieu. Donc sur le comité de pilotage de la recherche, il y avait des représentantes d'organisations, celles que j'ai nommées là, qui étaient des leaders reconnus dans leur milieu. Et donc on a pensé toutes les étapes de cette recherche-là ensemble, là, vraiment une élaboration des objectifs jusqu'aux activités de mobilisation des connaissances à la toute fin. On a regardé même dans le milieu du parcours les résultats ensemble. En tout cas, ça fait que ça a été un très beau processus. Ça donne beaucoup de sens, pour moi, en tout cas, comme chercheur, à ce que je fais, puis de sentir que ça contribue non seulement sur le plan des connaissances, OK? Ça contribue à développer des nouvelles connaissances, mais aussi ça contribue à un mouvement social. Et ça, je voulais pointer peut-être que dans le tout dernier rapport du GIEC, là, celui du groupe de travail 3, qui est sorti en avril 2022, qui porte sur la mitigation des changements climatiques, ça revient souvent, ça, l'appel à la recherche collaborative. C'est transversal dans le rapport. Donc, on parle de « real world labs », notamment. Là, j'ai de la misère à franciser l'expression, vous m'excuserez, pour accélérer la transition, puis pour dépasser le modèle linéaire selon lequel, tu sais, d'un côté, il y a les chercheurs qui développent la connaissance, puis de l'autre, il y aurait les décideurs, les politiciens qui prendraient et les acteurs de la société qui prendraient en charge ces résultats-là pour développer des meilleures pratiques. On voit que ce modèle-là, ça va pas assez vite, là. Et puis aussi dans le rapport du GIEC, c'est dès le sommaire technique, on dit la transition, là, elle va avoir un caractère perturbateur, là. Puis en anglais, le terme, c'est disruptive. C'est encore plus fort, je pense, que perturbateur. Et donc, c'est ça. Puis c'est ce qu'ils font en ce moment, les scientifiques qui se mobilisent dans une perspective de désobéissance civile, là. Ils perturbent. Et puis d'ailleurs, une dernière chose sur le rapport du GIEC. Ce rapport-là, dans un des chapitres, met l'emphase sur le rôle des mouvements sociaux. Il y a toute une section sur comme à quel point les mouvements sociaux, ce sont des incubateurs de, sur le plan du développement des savoirs, des connaissances, mais aussi sur le plan de la transformation sociale. Alors, c'est quand même étonnant de voir ça dans un rapport comme celui du GIEC. Bon, ils appellent pas jusqu'à la désobéissance civile, mais je pense qu'ils vont quand même assez loin. Il faut penser que ces rapports-là sont... Il y a des politiciens derrière là, qui les entérinent, là, donc quand même.
Oui. Marie Saint-Arnaud, est-ce qu'il y a une radicalisation du mouvement climatique qui pourrait séduire certains scientifiques et les pousser à agir?
Ben, on le voit, n'est-ce pas, puisque Scientist Rebellion est un groupe relativement nouveau ou une branche de Extinction Rebellion qui était assez nouvelle. Et on a vu la semaine passée Mère au front, quelques représentantes de Mère au front qui sont allées prêter offrir leur soutien au groupe qui dénonçait l'inversement du pipeline 9B à Montréal. Je pense que l'inquiétude et l'exaspération montent et les scientifiques font leurs travaux, ensuite peuvent être interpellés pour rédiger des mémoires, mais finalement, comme récemment, j'ai vu des scientifiques qui n'avaient pas l'habitude de se prononcer, écrire des lettres aux journaux, par exemple sur la formation sur les changements climatiques qu'on proposerait aux élus du Québec. Je pense que oui, là, c'est la situation d'urgence et de pression et d'inquiétude qui fait que les scientifiques peuvent aller jusqu'à la désobéissance civile. Oui. Bien sûr. Oui.
Je vous remercie. Vous avez entendu, on était en compagnie de Marie Saint-Arnaud, professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement et de l'Université du Québec à Montréal, et de Laurence Brière, professeure au département de didactique et chercheur au Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, le Centraire. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci à vous, Isabelle.
Au plaisir et bonne journée à tous.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, la réalisation et le micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Nous avons des rediffusions sur les ondes de cette radio le jeudi et également, vous pouvez l'écouter sur le site de l'agence Science Presse. L'émission possède une page, visitez-la. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Donc, passez tous une bonne semaine. Portez-vous bien.
Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science.